Bonjour à tous, bienvenue dans Résonance sur Radio B. Notre invitée d'aujourd'hui est une femme passerelle. C'est ainsi que la nomme Muriel Zack dans l'avant-propos d'un livre que cette femme passerelle a écrit et intitulé « J'ai vu Sisyphe heureux ». Elle a grandi, nous raconte encore Muriel Zack, dans un pays où, derrière chaque arbre, se cache une dirade nymphe des bois. Un pays où les enfants ne s'étonnent pas d'apercevoir au loin, sur la montagne, l'ombre des centaures, mi-hommes, mi-chevaux. Un pays dans lequel on apprend l'hospitalité avant d'apprendre à parler. Katerina Apostolopoulou est l'invitée de Résonance. Elle a choisi de vivre en France et en a épousé sa langue avec passion. La voici devenue passerelle entre ces deux rives. Elle enseigne le français au grec et le grec au français. Sur scène, elle roule en bouche les mots dans les deux langues. Elle traduit les poètes français qu'elle aime en grec, les poètes grecs en français. Aussi, c'est tout naturellement qu'elle s'est mise à écrire ses propres poèmes dans les deux langues. Résonance, Alain Goudard, une émission mise en onde par Simon Deborne. Calimera, Katerina Apostolopoulou.
Calimera, Alain Goudard.
Bonjour et kalos orizate.
Kalos asvrika.
Voilà, bienvenue à vous, bienvenue dans Résonance. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Cette femme passerelle qu'évoque Muriel Zack, en parlant de vous, de votre parcours, cela veut-il dire que venant de la Grèce en 1981, où vous avez passé votre enfance, et nous y reviendrons, à Volos, situé entre Athènes et Thessalonique, alors on est dans la région de la Thessalie, votre arrivée en France, avec cette langue, en l'occurrence le grec, langue qu'on emporte aussi avec soi, qui ne nous quitte pas, ne nous quitte jamais même, au plus près de notre corps, elle constitue comme l'écrit, alors là je fais appel un peu aux propos de Jacques Derrida, du philosophe Jacques Derrida, comme une sorte d'habitat mobile, une tente que l'on porte avec soi, un chez-soi mobile. Et donc la langue est impliquée dans l'expérience de l'accueil et de l'hospitalité, fin de citation. Donc la langue, elle se trouve fortement impliquée et être passerelle pour entrer en communication avec la langue du pays où l'on arrive. Elle devient une passerelle entre deux cultures, deux imaginaires, des modes de pensée. Et vous, vous êtes arrivé aussi avec votre petite maison, avec cette langue aussi dans sur votre dos. Et vous êtes arrivé dans ce pays qu'est la France aujourd'hui. Et comment ça s'est passé, cette arrivée, justement, Katerina Apostolopoulou?
Alors, d'abord, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. C'est un grand bonheur d'être aujourd'hui ici, à Bourg-en-Bresse, avec vous. Et donc Muriel Zack, qui me nomme femme passerelle, mais quel honneur de parler de quelqu'un comme ça. Quand je l'avais découvert dans le livre, ouais, J'étais fascinée qu'un parcours qui nous a l'air simple, finalement, peut donner une image si charmante et forte.
Et forte aussi,
ouais. Et forte aussi. Et parce que les choses se font petit à petit. À un moment donné, on se rend compte qu'il y a un pont qui s'est créé entre ces deux langues-là, entre ces deux pays-là, et que ce pont n'est pas face à nous, n'est pas devant nous, mais en nous, et que ça se fait petit à petit. Donc la langue, bien sûr, on la porte en nous, sur le dos, comme vous dites. C'est notre maison, notre abri. on arrive comme de petits escargots, tortues, très lent, vraiment très très lentement. Les déplacements, pour moi, le départ était... Déjà, il n'y avait pas une décision. Tout à l'heure, vous avez dit que j'ai décidé de vivre en France. Ce n'est
pas tout à fait exact.
C'est quelque chose qui s'est fait, ça ne s'est pas décidé. Ouais. Ça m'est arrivé.
C'est ça, c'est joli d'ailleurs. Ça m'est arrivé.
Ça m'est arrivé de vivre ici, en fait. Et ça s'est passé comme ça. J'ai décidé de quitter la Grèce. Ça, c'est vrai.
Oui.
Là, après, il fallait ailleurs.
Là, c'était pour un ailleurs.
Quitter la Grèce pour un ailleurs. C'était sûr à un moment donné que je devais partir. Je fais plutôt partie des gens qui savent au moment qu'à un moment donné, ils doivent partir. Je sais très rarement où je vais aller, mais je sais que je ne dois plus rester quelque part.
Ça, c'est intéressant.
Ouais, et je crois qu'il y a vraiment deux natures différentes. Il y a des gens qui visent quelque part.
Oui, tout à fait.
Et des gens qui s'installent. Moi, je fais partie de ceux qui aiment s'enraciner. Et à un moment donné, quand le sol n'est plus fertile, quand je ne peux plus me développer, par contre, je n'aime pas souffrir, ça c'est sûr. Et du coup, c'est le moment de partir. Et quelque chose en moi sonne l'heure du départ.
Et là, l'heure du départ a sonné à un moment donné.
Exactement. Et il fallait faire le pas. Mais vers où ? Donc, il y a une hésitation.
Oui, donc ça, c'est délicat aussi. Faire le pas pour aller vers un inconnu, pour aller vers un quelque part que je ne sais pas ce qu'il sera. Ce vers quoi il va m'entraîner et quelle passerelle je vais pouvoir tisser pour pouvoir m'y rendre.
Ben, disons qu'il y a une grande facilité. Moi, j'ai grandi, je fais partie de cette génération qui a beaucoup bougé. Quitter la Grèce juste après les études, c'était quelque chose qu'on faisait, qui se faisait. Donc, c'était choquant pour personne, ni pour moi, ni pour la famille. Enfin, voilà. C'est, comme on disait, des choses qui arrivent et qui peuvent juste créer une parenthèse. Personne n'imaginait, et moi non plus d'ailleurs, mais pas du tout, que j'allais ouvrir, que c'était un chapitre entier qui d'ailleurs n'est pas fini pour l'instant. Moi, je pensais que je partais pour un an, aller deux ans.
C'est ça.
Et ça s'est combiné avec un désir d'études,
d'aller plus loin, d'approfondir, de creuser finalement.
Bon, là, je me rends compte que les études, c'était vraiment un alibi. Il faut... la vraie raison, c'était qu'il fallait quitter ces lieux.
C'est ça.
Et il fallait trouver une raison pour donner aux autres, parce que tu peux pas dire juste « je pars », tu pars faire quoi ? C'est la question. Donc, la réponse était suffisante.
Les études.
Les études, voilà. Donc, il y a ce moment donc, de départ qui arrive. Moi, j'ai 22 ans à l'époque. J'ai fini mes études des langues françaises. Donc, il y a une sorte d'évidence, ou en tout cas de cohérence,
À dire...
par rapport au choix du pays.
Voilà.
Pourtant, j'hésite parce que j'ai fait des études de lettres françaises à Athènes.
Oui.
Et en même temps, les deux dernières années, j'apprends l'espagnol.
Donc, il y avait peut-être aussi cette attirance vers ce que peut-être l'Espagne et la culture espagnole.
Il faut dire qu'il y a un pays quand même qui, au niveau de la culture, des habitudes, est très proche des nous. Et que aussi la langue, au niveau de la sonorité, moi encore, j'entends des Espagnols parler un peu au loin et je me demande s'ils sont des Grecs.
C'est ça.
Exactement le même son, les jota, les theta, tout c'est vraiment les mêmes. On roule l'air pareil.
Oui, oui.
Et pour dire, moi, je suis né, je suis baigné dans la langue française, parce que je n'ai pas dans une maison, mais dans une école. Ma mère, elle est prof de français, et l'école, elle est dans notre maison.
Ah, d'autant plus. Ah oui, alors donc, vraiment en immersion complète
immersion
dans la langue française.
Totale.
Ah, excellent.
Par une femme qui parle très bien le français, mais avec un accent grec à couper au couteau.
Et comment se fait-il que du coup, que votre mère soit retransmettrice de faire partager son amour de la langue française, mais que du coup ça soit à l'intérieur de la maison, parce qu'il y avait, il fallait que ça se passe comme ça ?
Parce que en fait, en Grèce, ça c'est très commun.
Oui.
C'est-à-dire les langues, nous on apprend beaucoup des langues.
Oui.
Peut-être que vous l'avez déjà... vous vous rendez compte, si vous rencontrez des Français, très souvent ils arrivent en France, ils parlent français, ils parlent anglais, ils parlent espagnol, parce que les Grecs, ils les parlaient que par nous. Donc on est obligé, si on veut sortir du pays, il faut parler une autre langue. Mais la langue, on l'apprend pas à l'école, parce que sinon on la parlerait comme les Français, c'est-à-dire vous parlez très peu les langues étrangères.
Absolument.
Parce qu'il y a très peu d'heures d'enseignement. Bah nous, quand on finit l'école, on a des cours après dans des écoles des langues.
Ah, bah, quelque chose de très intéressant d'ailleurs.
Bah oui, parce que c'est nécessaire, c'est vital.
Mais bien sûr.
Disons que ces cours des langues sont presque plus importantes que l'école, parce que c'est notre passeport après pour pouvoir être en contact, en communication avec le monde.
Bien sûr.
Donc on apprend tous d'abord l'anglais, et après il y a le choix entre le français et l'allemand maintenant, et après troisième option, espagnol, italien, en fonction de... du passé de chacun, de l'histoire de la famille, des préférences. Donc moi, je nais dans une école de français. Donc je suis presque condamnée.
Quelque part.
Ouais, d'avoir cette langue comme deuxième langue qui m'accompagne toujours. Ouais. Donc au moment de la décision du départ, vraiment l'option c'est 50-50, c'est pile ou face. Est-ce que je pars pour aller en Espagne, qui est mon chemin, c'est moi qui l'ai choisi, ou est-ce que je continue le français ? Et c'est vraiment une pièce de monnaie qui décide.
Qui a décidé de la chose.
Exactement.
Donc se laisser aller au hasard, finalement.
C'était vraiment... au hasard, et moi ça me va, quand je suis vraiment 50-50, c'est-à-dire rien ne pèse en moi plus dans un sens que dans,
que
l'autre,
dans l'autre,
je me suis dit bon je pars en France pour commencer et j'espère que l'Espagne se trouvera sur mon chemin plus tard. Et c'était pareil aussi au niveau des études, je pars pour faire un master 2 des littératures comparées et j'hésite entre deux personnages qui m'habitent depuis mon adolescence et que j'aime beaucoup, je suis entre Médée et Antigone.
Effectivement.
Ça fait longtemps que j'ai vécu avec les deux. Je les aime. Je vais le défendre. Je vais les étudier. Je vais approfondir. Ouais. Et pareil, pile ou face, j'ai dit OK. Et ça tombe Médée. Très bien. Donc, je pars en France pour faire des études sur Médée. Étudier deux versions. La version antique et une version plus contemporaine. Une reprise du mythe de Médée par une pièce de Vassilis Boudouris. Et je viens pour faire ça en me disant toujours, j'espère que l'Espagne viendra un moment
viendra
sur mon
un jour
chemin,
aussi sur mon chemin.
Et j'espère aussi qu'Antigone viendra un jour à mon croiser mon chemin. Et c'est ce qui se fait plus tard, quelques années, quand je commence les études de théâtre. Et je suis ravie parce que la première pièce, le premier spectacle que je monte, c'est Antigone. Donc la joie qu'on me dit.
Oui, j'imagine.
Je me dis voilà. C'est,
ça y est, Antigone vient à moi.
Exactement.
Les choses s'accomplissent.
C'est l'heure. Ça a sonné.
C'est l'heure.
L'heure a sonné. Donc, c'est comme ça que le départ s'est fait, c'est comme ça que j'arrive ici. Et par rapport à ce pont entre les langues, mais ça se fait si doucement, parce que
c'est
moi,
oui.
J'ai l'impression que je parle français, sauf que les Français, lorsque j'arrive, ils ne sont pas d'accord du tout.
Ils se disent, voilà.
Déjà, je parle français comme Victor Hugo, c'est-à-dire j'ai un français très très littéraire, mais j'ai beaucoup de mal à commander à manger dans un restaurant. Et je parle avec un accent qui fait que je ne suis pas comprise.
Et donc, du coup, difficulté de manier cette langue et de se faire comprendre avec cette langue que vous côtoyez depuis si longtemps.
Et donc, je suis exilée dans un français qui est que le mien, que le français ne partage pas avec moi. Après tant d'années d'études,
c'est ça.
C'est désespérant. C'est vraiment désespérant. Et c'est là où je trouve que, ben, on va en parler peut-être plus tard, mais que l'accueil des Français au niveau de la langue, c'était très dur.
Je pense.
Ouais.
Ouais, que là, l'accueil a plutôt été quelque chose à vous de faire l'effort, à vous de vous hisser, si je peux aussi, à la hauteur
à
de
la
ce
hauteur
que des mérite finalement de
l'exigence de l'exigence l'oreille de la, dans
de la,
français.
C'est ça, et de la langue, qu'est-ce qu'elle exige en tout cas, et on sans vous faciliter, effectivement, vous accompagner à pouvoir, voilà, en tout cas, on reste sur le socle de la langue, à vous de faire l'effort pour y aller, quoi.
C'est ça, les Français sont là, ils nous attendent. Si tu arrives à monter jusqu'au sommet, bon, tu les rencontreras. C'était l'impression que j'ai eue les premières années en arrivant ici.
En tout cas, ça met au jeu, on y reviendra peut-être à un moment ou un autre, mais effectivement sur la notion d'hospitalité, effectivement, où on sait que chez vous, l'hospitalité, c'est sacré. Ça fait partie des choses
des
qu'on apprend
premières.
Et des valeurs premières. Alors, je ne dis pas que la France n'est pas hospitalière, ce serait... mais elle a une... on peut discuter qu'est-ce que ça veut dire que l'hospitalité. Est-ce qu'on la met sous des conditions ?
Comment on la trouve ? Est-ce qu'on retrouve la
c'est
même
ça.
Chose dans chaque pays quand on
c'est
dit
ça.
Hospitalier, un pays hospitalier, est-ce que
qu'est-ce
c'est
que
pareil ?
Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour chacun ?
Parce que c'est vrai que la Grèce, elle est très connue pour cette valeur-là, ce côté hospitalier que tout le monde en parle, les gens qui viennent et qui nous rencontrent. Par contre, vous voyez bien qu'il y a, bah là ça fait des années, on parle de ces problèmes d'immigration.
Tout à fait.
Comment la Grèce, finalement, est-ce que c'est encore un pays hospitalier ?
Oui.
Que diraient les gens qui sont accueillis là-bas, qui sont mal accueillis, souvent ? Il y a des histoires dans les deux sens, des gens qui racontent avec bonheur, parce qu'ils racontent des histoires des personnes.
Bien sûr.
Qui vont vers eux et qui les accueillent et qui partent vraiment dans leur histoire et qui se souviennent très bien de l'histoire de notre pays aussi, qui est un pays, on est des gens qui ont beaucoup migré, on est un peuple qui a migré énormément. Et
c'est
quel
certain.
Est l'accueil au niveau de l'État ? Ça, c'est autre chose. Donc, quand on dit la Grèce, elle est hospitalière, oui, mais en tant que quoi ? En tant que peuple ?
Ou en tant qu'État ?
Est-ce que les Grecs sont hospitaliers, mais la Grèce ne l'est pas ? Vous voyez, il y a une séparation.
Bien sûr.
qui n'est pas...
De toute façon, cette notion aujourd'hui, elle est très... Vous évoquez les migrants et toutes ces vagues de personnes qui sont dans l'obligation de se réfugier, de voyager et autres, et que c'est une question cruciale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'éthique de l'hospitalité, elle est vraiment en jeu. C'est-à-dire qu'on renforce plutôt la peur de l'autre. Les peurs ont tellement été exagérées que du coup... et là, je reprendrai peut-être aussi certains propos de la philosophe Fabienne Brugère. Voilà, il faut ouvrir à l'autre l'abri. Et cela suppose qu'on prenne le risque de vouloir se désabriter soi, parce que ça va être la seule manière de pouvoir rentrer en contact avec l'autre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quels que soient les pays européens qui sont en cours, que cette notion-là, elle est un peu balayée à l'heure d'aujourd'hui, au gré des peurs, qu'on accentue, et du coup on a une peur de l'autre, une peur de l'étranger, quel qu'il soit, sur notre propre sol, celui qui est à l'ailleurs. Alors bien sûr, celui en plus qui se trouve être dans l'obligation d'être dans une migration, de voyager pour rester en vie, pour pouvoir trouver un autre espoir de vie pour la famille et pour autre, se trouve dans des difficultés énormes et ça vient toucher des valeurs de fond, comme vous le disiez pour la Grèce, qui a ses valeurs de fond. La France a ses valeurs aussi de fond, d'hospitalité, de fraternité, bien évidemment.
On le formule différemment.
Mais on le formule
différemment. Si on va dire fraternité, liberté, égalité, bon, mais fraternité plutôt, ça s'exprime par par ce mot-là, on est tous frères et sœurs. Nous, on disait hospitalité, et ça fait partie, ça vient de notre mythologie, ça vient...
C'est ça, c'est pour ça que c'est fort, dans l'ancrage de la culture grecque, c'est
pour
plutôt,
nous, les
viens,
gens...
viens, ouais. Qui que tu sois, viens, je t'accueille.
Mais pour nous, les gens qui viennent demander asile, demander abri, sont toujours des dieux. C'est ça, c'est que l'homme... Le mendiant qui vient frapper à ta porte,
c'est
un ange, c'est un dieu. Tu lui dois ça. Et c'est pas seulement l'accueillir, tu lui donnes le meilleur de ce que tu as.
C'est ça.
Et on le voit encore dans Sisyphe, d'ailleurs, les histoires que j'ai choisi de raconter.
Oui, ça retransmet aussi.
Ça retransmet exactement ça.
Absolument.
Je voulais revenir vers ces gens-là, dans les maisons où il y a si peu, et qui sont les maisons les plus riches. Et ça reste encore aujourd'hui en Grèce. On voit que ceux qui ont le plus à partager, ceux qui ont le moins. Donc, bon, on va pas parler du système qui se conforte vraiment à
épuiser. Non, mais en tout cas, on voit qu'elle est aussi au cœur de ce que vous écrivez. Elle est au cœur aussi, bien sûr, des problématiques d'aujourd'hui. Et qu'en même temps, quand on parlait de la langue aussi tout à l'heure, elle est en jeu, cette notion d'accueil, de recevoir, de mise en mouvement, de comment vous vous êtes mis en mouvement aussi pour pouvoir accéder à une langue, mais aussi comment ceux et celles qui vous entendent aujourd'hui, vous rencontrent aujourd'hui, se mettent en mouvement pour vous accueillir au travers de la langue. Voilà. Intrinsèquement liée, cette notion de rencontre avec l'autre, elle passe aussi par la langue, et on voit bien qu'elle est complètement au cœur du sujet. Reste que, et peut-être on peut essayer encore de rester quelques instants sur cette place-là, à savoir que, nouvellement arrivé, vous vous confrontez à des gens, vous vous confrontez à de la coexistence avec des organisations, avec des manières de faire, et alors peut-être là, en se centrant un petit peu davantage sur votre vécu, vous, finalement, tout nouvel arrivant et aussi l'irruption d'un événement, d'une singularité finalement qui vient aussi quelque part bousculer, qui vient créer de l'imprévu, qui vient parce que elle vient avec ce qu'elle est, et du coup il faut aussi, comme on le disait, l'accueillant, comment se met-il en disposition pour accueillir ça là. Comment vous avez vécu cette période? On a bien compris que effectivement les études, le choix ont été certainement des facteurs, mais justement vous disiez que c'était pas facile l'accueil de la langue au niveau, mais est-ce que du coup comment vous avez vous aussi vécu cet accueil à l'intérieur, dans vos relations avec les autres, comment s'est-il passé pour vous?
Alors d'abord, j'atterris très doucement. Et il faut dire qu'au début, comme il y a ce problème des langues, j'utilise beaucoup l'anglais. J'arrive en France. Encore une fois, je répète, après des études de français, ayant été prof de français en Grèce.
Ok.
Donc je me rends compte que j'enseigne mal, puisque moi, on ne me comprend pas quand j'arrive ici. Ou on me comprend, mais c'est compliqué, c'est difficile d'avoir une vraie discussion. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je fréquente assez vite les Espagnols, les Argentins, les Colombiens, et je parle en espagnol ou en anglais. Et le français vient petit à petit, mais j'ai des amis qui me disent quand même, quand on se parlait la première année, ça avait l'air dur. Moi, je ne garde pas du tout ce souvenir. Je n'ai pas l'impression que c'était dur. En fait, le vrai sentiment, c'est que j'ai eu l'accueil qu'il me fallait.
Et ça, c'est intéressant.
J'avais besoin de ça.
De ça.
J'avais
pour pouvoir rebondir
et de me faire ma place. pas qu'on me la donne.
C'est ça.
Il fallait que je me la fasse, cette place, que je la trouve, que je la crée. Et ça, ça vient vraiment pas à pas. C'est une conquête jour par jour.
Oui.
Et ça vient surtout avec, avec le choix de faire du théâtre. C'est-à-dire, à la première année, j'avance sur mes études de littérature comparée, comme c'était prévu.
Bien sûr.
Et je me rends compte, je dis, si j'exploite pas cette occasion pour faire ce que j'ai toujours voulu, donc du théâtre, je reviens, je retourne en Grèce et c'est fini. Je retourne à cette histoire de prendre l'entreprise de ma mère, continuer cette école, rester prof de français. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Je sens que c'est pas par là que passe mon chemin à moi.
C'est ça, c'est pas par là où il doit se créer, se faire.
Exactement. Mais comment faire pour résister puisque c'est déjà prédessiné? Je vois déjà les pointillés qui m'attendent. Et qui me disent
comment sortir du cadre établi et plutôt que se laisser aller sur le chemin avec ce qu'il peut vous réserver de surprise ou d'errement ou de direction ou de trajectoire.
Oui. Et surtout, moi venant de Grèce et en plus pas même de la capitale mais d'une petite ville, là les choses sont encore plus
accentuées.
À ta naissance, on imagine déjà comment...
Qu'est-ce qu'on va être ?
Quelle sera ta vie quand tu auras 30 ans ? Si tu as deux enfants, trois... Et où ils grandissent, si c'est l'étage au-dessus de celui de tes parents, si tu t'éloignes du quartier, mais tu es à 200 mètres maximum. Enfin voilà, on a l'habitude
mieux aussi peut-être ce désir de pouvoir échapper, de pouvoir trouver une issue par rapport à ce destin déterminé et de se dire, est-ce que je peux me faire construire mon propre destin ?
Oui, mais j'avoue que j'aurais adoré ne pas avoir à le faire. Parce que c'est vrai que ça cause un chagrin. Et que quand même, vu ces choix, enfin, vu comment les choses sont venues, parce que comme je disais, c'est pas vraiment un choix, mais ça reste, ça devient un choix parce que j'ai choisi de rester.
Bien sûr.
Donc, donc ça veut dire que moi, je grandis, je vieillis, on dit en français, je trouve ça terrible, parce qu'en fait, on vieillit pas, on grandit.
J'aime bien l'idée du grandir, effectivement.
Loin des gens que j'ai beaucoup aimés.
Et que là, effectivement, c'est douloureux.
Et c'est pas que douloureux, parce que quand on se retrouve, c'est très fort, mais quand même, finalement, on vit séparés.
C'est ça.
Et en avançant dans l'âge, on se rend compte que, voilà, bah, nos parents, les gens de la famille vont vieillir un jour, et on arrive, et juste, on encaisse cet avancement du temps. Et tout ça, ça s'est passé sans nous. Nous, on est loin. Bon, c'est comme ça. Ça fait partie de ce forfait-là. Tu achètes et tu prends le tout. Et dans ce tout, il y a ça. Donc, on revient à ses débuts. Alors, on me donne l'accueil qu'il me faut, l'accueil que je mérite. C'est-à-dire, en Grèce, je pars parce que je me sens étrangère. Je me sens étrangère à toute cette culture. C'est-à-dire, pourquoi moi, je ne peux pas accepter ce destin ? Pourquoi je ne peux pas me suffire de ce qu'on me donne et me dire qu'on est bien ici, puisqu'on est bien ici ? J'ai aucun argument pour me battre contre, mais il me faut autre chose, quand même. Donc, en arrivant ici, je suis vraiment une étrangère.
C'est ça.
Et c'est objectif. Donc, ça m'apaise. Là-bas, c'est pas logique. Là-bas, c'est je suis folle. Ici, je suis dans mon élément. Donc, je suis étrangère. Et petit à petit, je dois devenir quelqu'un. Disons que ces 22 premières années en Grèce... J'ai l'impression d'avoir un échec. J'arrive pas à passer un cap. Et ici, c'est une deuxième chance. J'arrive et je suis déjà vieille. Ici, je me rajeunis.
Résonance sur Radio B. La poésie, c'est la façon la plus directe de faire se rencontrer deux âmes qui ne se connaissent pas. Et là, nous avons entendu une pièce de Louis Clavis, extrait du disque Les Cadences du Monde, intitulé Les Deux Écritures, interprétée par Louis Clavis à la clarinette, Annabelle Louis, violoncelle, Bruno Ducret, violoncelle, Kevan Chemirani, zarbe. Alors nous continuons, bien sûr, toujours, cette émission en compagnie de Katerina Apostolopoulou, et nous continuons notre voyage entre la Grèce, la France, et puis bien sûr cet amour des mots qui, dans ce trajet, dans cette traversée, et dans ce départ aussi, vous entraîne aussi à un moment donné à aller vers la poésie. Et j'aimerais aussi, parce qu'à un moment donné vous l'écrivez, lorsque j'écris des vers, c'est le meilleur que je puisse donner de moi, on n'en doute pas une seconde. Et puis, la poésie crée des rencontres incroyables. Petite, et c'est là où j'aimerais peut-être que vous nous en disiez plus, j'ai eu un accident heureux, je suis tombé dans la poésie. Alors, pouvez-vous nous raconter comment s'est produit cet accident heureux qui vous a fait tomber dans la poésie ?
Alors, bon, faut dire que la poésie, chez les Grecs en général, est présente parce qu'on chante beaucoup des poèmes. Il y a beaucoup des poèmes qui sont mis en musique, donc on grandit avec. Nikos Gatsos, par exemple, moi, c'est un poète extraordinaire. Moi, j'ai grandi avec lui. J'ai tous ces mots dans ma tête et dans ma bouche qui viennent spontanément encore maintenant quand je retourne en Grèce. Il y a des chansons que je n'ai pas écoutées depuis longtemps. Oui. Et je me découvre mon souvenir encore parce que mon corps les connaît.
Il a tellement... le possède et vous tient.
Mon corps est possédé par lui, en fait, tellement il sait mieux que moi. Si quelqu'un me le demande comme ça spontanément, peut-être ça ne viendra pas. Ouais. Mais dès que la musique commence,
la mémoire est là, elle part, et exactement. Le corps, il sait.
Donc, il y a déjà ça. Donc, la poésie est déjà assez présente. Et à l'âge des 16 ans, l'accident, c'est que moi, je perds mon père. Et les poèmes...
Donc là, on est sur un choc brutal.
Sur un événement vraiment, c'est pas normal que quelqu'un meure si jeune. Ça ne s'explique pas. On peut pas le justifier, on peut pas y répondre. Et il faut trouver un moyen pour garder le contact.
C'est ça.
Il faut pas que moi et lui on se perde. Et ça sera quoi le lien? Ça sera le poème. Donc je lui prépare un poème chaque jour. Après le collège, je vais au cimetière. Et je reste et j'écris quelque chose. Et c'est notre communication pour la journée, c'est notre coup de fil.
C'est la manière qui s'impose petit à petit et qui se construit petit à petit.
Parce que je le commence et je vois que ça marche, ça m'apaise. Ouais. Je sais qu'on est ensemble. Ouais. Et en fait, surtout, c'est un accident. Et je l'appelle un accident heureux parce que c'est un accident. Et c'est peut-être l'accident le plus heureux de ma vie. Parce que la mort peut être une claque de laquelle on ne se remet pas. Ça peut rester un désastre pendant longtemps dans notre vie. Et je crois que grâce au poème, ou grâce peut-être à mon père qui me répondait, je me suis rendu compte qu'on reste ensemble.
C'est ça. Que le lien n'était pas cassé, mais au contraire, il s'est consolidé.
Exactement. Finalement, ça se transforme. Et que, à l'opposé de ceux qui vivent loin de moi aujourd'hui, lui, il est toujours avec moi.
Il est toujours avec vous.
J'ai jamais été aussi près de lui que depuis qu'il est parti. Donc, ça crée une conciliation avec la vie et la mort.
C'est ça.
Et c'est là où la langue naît pour de vrai. À l'âge de 16 ans, je me tourne vers d'autres poètes parce que je dois nourrir cette relation. Comme lorsqu'on est amoureux et on cherche des citations, des lettres, des poèmes pour écrire à lui ou à elle.
À elle, bien sûr.
Et que nos mots ne nous suffisent pas. Donc, je prends des poètes et je lui lis le soir, comme ça, dans le cimetière. Et je vole des mots pour en créer les miens. Et cette histoire commence là, ce voyage dans la poésie commence là, et ça ne s'arrête plus jamais. Peut-être pas avec la même fréquence. Ce rituel dure peut-être un an et demi, donc à chaque fois j'y vais, j'écris un poème et je vole une pierre du cimetière. Et au moment où je remplis le bocal que j'ai sur mon bureau, où je sens que ça déborde, dis, il faut que tu arrêtes.
C'est ça.
Là, c'est le moment d'arrêter. Tu écris de loin, t'as plus besoin de te déplacer.
C'est ça.
Il sait que tu es là. Et cette relation continue. Et
le lien est indéfectible, il est établi, et que là, du coup, même si vous êtes à distance, le fait de que cette écriture soit là, c'est votre conversation, c'est votre échange, c'est votre ouais. mode de relation avec lui.
Et c'est lui qui m'apprend en fait que la poésie, c'est communication. Là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, oui. Alain, que c'est, on cherche le mot les plus justes, les ouais. plus économes. Il ne faut pas que ça soit long. Mon père, il n'aimait pas les gens bavards, donc il fallait que ça soit économe.
Ouais. La précision, finalement, la justesse du mot, le poids aussi du mot et du sens ouais. Pour, je dirais, avoir la relation la plus authentique possible.
Tout à fait. C'est comme quand on fabrique une huile essentielle. Vous voyez combien de tonnes de pétales il nous faut pour produire 1 ml d'huile essentielle de rose. C'est une huile. Et ben, il nous faut à peu près une telle quantité de mots pour arriver à faire 3 vers de poème.
Donc du coup, ce bocal se remplit, ça déborde, ça donne des envies d'aller plus loin, de poursuivre l'écriture sur des formes encore plus hautes encore.
C'est pas une envie. Encore une fois, les choses viennent. C'est pas une envie
c'est
d'aller
chemin,
plus loin.
C'est chemin, ça chemine.
Oui, c'est encore des étapes, des communications. Après, commence une correspondance. Après, je pars à Athènes. Donc, j'écris avec des amis. Il y a le mail, on arrête les lettres. Mais voilà, l'écriture... vient
et oui,
toujours.
Vous étiez attaché que ça, même que je repense simplement le fait que vous dites lettre, mail,
oui.
Du coup, attaché à comment la main guide aussi la pensée et l'écriture. Alors, bien sûr, il y a le clavier, il y a.
Ouais. Mais on écrit quand même différemment sur un clavier.
C'est ce que je voulais soulever avec vous, ouais. que de plus avoir la main qui porte la pensée, qui est sous le qui est à la fois conductrice de la pensée ouais. et réceptrice aussi de la pensée, ouais. c'est une chose différente que t'as.
À le corps participe différemment quand on écrit. Le ouais. papier résiste différemment.
Bien sûr.
Et quand on apprend à taper vite, on tape trop vite.
C'est ça.
La main connaît un rythme qui est plus juste, je pense, surtout quand on écrit de la poésie. Et cette facilité d'effacer,
oui.
quand on écrit sur le papier, on hésite plus.
Oui.
On a ce moment suspendu et on perd plus facilement aussi la pensée. C'est-à-dire, l'idée ouais. qui est passée il y a 30 secondes, c'est fini.
Ça, elle est déjà
sur
finie.
L'ordinateur, il est déjà tapé. Donc, on le fabrique très différemment. C'est comme fabriquer une maison à la main et utiliser des machines. Ça n'a rien à voir. Donc moi, je suis très contente parce que j'ai garde quelques amis avec qui on échange
vous
encore des lettres.
De manière
classique,
classique, si
vieille,
on peut dire.
Rétro. Et, donc voilà, c'est...
Ouais, c'est très beau.
L'accident heureux.
Même s'il part de quelque chose, bien sûr, d'une tragique en tant que tel, mais de ce qu'il a provoqué, de la relation qu'il a provoquée, de ce qu'il a engendré aussi par là, il y a quelque chose de
très
très beau.
Ça cesse d'être tragique. En fait,
bien sûr.
Grâce à ça, pour moi, la mort n'est pas tragique. Une séparation, elle est tragique.
Oui.
On est vivant, on est là et on ne s'aime plus. La mort, ça fait partie des choses qu'on doit accepter parce que ça nous dépasse.
Et oui, ça nous dépasse et c'est tellement intrinsèque à nos cheminements. La naissance nous amène forcément à une finitude oui. qu'on ne sait pas ce qu'elle sera, mais en tout cas, c'est un chemin qui nous conduit à cette finitude et que c'est encore une autre étape qui se déroulera encore après.
Et ça fait partie des choses contre lesquelles ça ne vaut pas la peine de se battre.
Absolument.
On a tellement de combats à donner et des luttes à donner. Autant lutter pour comment rester ensemble tant qu'on est ensemble.
Et comment la mort peut être une sœur bienveillante.
Aussi. Ouais. Une sortie. Vous voyez, c'est comme les sorties oui. théâtrales. Quelqu'un a quitté la scène.
Voilà.
C'est la question, c'est tant qu'on reste sur scène, qu'est-ce qu'on a à
qu'est-ce
faire.
Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on a à
c'est
faire.
Là, c'est ça qu'on a à chercher ensemble.
Petit à petit, donc, vous avez cherché qu'est-ce que j'avais à faire, qu'est-ce que j'avais à écrire. on avance un petit peu dans le déroulé de notre émission. Et peut-être c'est d'aller, justement, j'évoquais ces propos en début d'émission donc de Muriel Zach. Ça veut dire que, voilà... c'était sur la préface d'un livre que petit à petit, toutes ces pensées, ces modes de raconter aussi, le côté narration aussi, qui est important aussi chez vous, va prendre forme. C'est-à-dire que des histoires peut-être aussi vont prendre forme, que vous avez envie de raconter, de partager aussi avec d'autres. Et donc du coup, ça va donner quand même à réunir un certain nombre de ces histoires dans un livre qui est paru, c'est récent.
Il y a trois ans maintenant, quand même.
On évoquera s'il y a d'autres chantiers justement d'écriture, mais on peut en parler. Et qui a été bien reçu ce livre.
Bon, ce livre, Bon, on va parler un peu de l'histoire de ces livres.
Voilà, parce
que
ça, c'est important,
bien
sûr.
Parce que le lien avec la poésie, comme on disait, ça ne s'arrête pas.
Oui.
Mais pour arriver au récit, il y a plusieurs étapes.
Mm-hmm.
Il y a surtout ce passage par le théâtre,
oui.
Où finalement, je vais commencer à écrire des pièces où, pendant mes années d'études au conservatoire du 5e arrondissement, avec des camarades,
oui.
Il y a une compagnie qui se crée, qui s'appelle Uburic,
mm-hmm.
Et une de mes collègues, Kim Aubert, vient me dire, viens Katerina, tu vas traduire pour nous Antigone de Sophocle.
Ah, Antigone.
Et voilà, the comeback. Et très vite, on se rend compte que non, on va pas traduire. En fait, on va adapter, on va réécrire notre Antigone à nous. Et finalement, c'est pas du tout Antigone de Sophocle uniquement, mais c'est une Antigone qui voyage à travers Sophocle, mmh. Henri Beauchaud, Jean Anouilh, mmh. et des choses que nous, on lui ajoute.
Vous-même, vous lui ajoutez.
Mmh. Nous-mêmes, on lui met. Et ce projet va évoluer pour donner finalement toute la trilogie et qui portera le titre « Sous l'œil d'Antigone ». Et on aura les trois pièces ensemble. Donc l'écriture dans le théâtre me fait me rendre compte que j'aime raconter des histoires.
Des histoires.
Là, ce qui n'est pas quand même l'objectif direct d'un poème.
Tout à fait.
Et c'est comme ça, petit à petit, que je commence à me tourner vers la poésie narrative, mais encore sous forme de tentatives très timides.
Très timides, petit
très
à petit,
hésitantes.
Là aussi.
Donc, Sisyphe, il vient, encore une fois, et comme toujours.
Oui.
Et c'est que comme ça que ça peut être heureux, un événement d'une rencontre. Je rencontre Muriel Sack et Bruno Doucet.
Donc, d'ailleurs, Doucet, c'est le nom de l'éditeur.
Qui est mon éditeur.
Bruno Doucet, qui
ils sont mes éditeurs.
Qui sont vos éditeurs.
Muriel Sack, c'est la directrice de la collection, et Bruno Doucet, c'est mon éditeur.
Donc, une rencontre très importante, effectivement.
Très, très importante, humainement déjà, et après aussi artistiquement très, très riche. Et en fait, comme ils adorent la Grèce,
oui.
À un moment donné, sur une scène ouverte, une soirée où chacun peut se lever et dire un poème, je leur propose la première histoire de ces livres. Qui a été écrite pour eux, comme un cadeau.
Comme un cadeau.
Et très vite après, alors qu'on était déjà sur un projet avec Bruno Doucet,
oui.
On pensait, on travaillait déjà sur un autre recueil des poèmes à moi,
mm-hmm.
Bruno se retourne et me dit, Katerina, c'est ça que je veux. C'est des histoires comme ça que tu vas écrire. Et ça
Incroyable.
Sera ça, ton entrée dans la scène de la poésie en France.
Magnifique.
Ce sera ça, ta première identité. Moi, je suis désespérée parce que toi, tu dis magnifique maintenant parce que le livre existe. On sait qu'il a été heureux, Sisyphe, finalement.
Mais le temps de Sisyphe
le trouver,
heureux,
c'est Sisyphe. Et le voir ainsi, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. On a passé par des périodes très, très
pénibles.
Oui, où j'étais, mais tellement.
Ouais, ouais.
Bon, en tant que. Dans l'écriture de la poésie, on a l'habitude de jeter, mais là, c'était quand même incalculable.
Ouais. Le nombre d'étapes qu'il a fallu franchir pour aboutir au texte qu'on a sous les yeux.
Le désespoir arrive quand même, il y a une petite voix qui te dit peut-être que tu ne peux pas faire ça, en fait.
Peut-être que tu n'es pas faite pour ça.
Ou tu n'es, en tout cas, surtout, tu n'es pas prête parce qu'il faut retourner là-bas.
Ou pas prête pour pouvoir le faire.
Moi, c'est la première fois que je retourne en Grèce dans l'écriture.
C'est ça, parce que ça oblige à faire le retour.
Oui, de retrouver ces gens. Et ce n'était pas du tout, encore une fois, ma décision à moi.
C'est une proposition.
Je ne peux pas dire que quelqu'un me l'impose, mais quelqu'un me le propose.
C'est
et
ça.
Moi, je l'aime, c'est quelqu'un. Et je veux travailler avec lui.
Je
sens.
Donc vous faites le chemin pour aller vers lui et pouvoir répondre à cette sollicitation
à cette
et à cette demande.
Et je me dis, s'il me dit que je peux le faire, c'est qu'il voit quelque chose.
Et c'est qu'il sent que vous pouvez tout à fait le faire.
Et ça vient du théâtre. Parce que très souvent, nos profs, nos metteurs en scène me disent, vas-y. On sait que tu peux,
on
donc vas-y.
Ouais,
donc ça va te prendre 1 heure, 2 heures, 5 jours,
mais
on ne sait pas, mais tu vas le faire.
Ouais.
Et pareil pour l'écriture, j'ai la confiance donc des Bruno, et petit à petit, très lentement, le moment arrive où les portes s'ouvrent et les histoires viennent presque telles quelles. Après 6 mois de travail, d'avancement très pénible, où on ne sait jamais, où en fait je ne trouve jamais les mots justes. C'est soit trop fort, soit pas assez, soit trop émotionnel.
Il fallait trouver le juste équilibre, vraiment, des choses.
Et cela vient grâce aux deux langues. L'équilibre de ce recueil, C'est la première fois que je travaille avec le deux langues.
Oui, parce qu'il faut dire à nos auditeurs qu'il est bilingue. Hein, vous oui, avez tenu à ce qu'il y ait le côté grec, l'écriture grecque, ouais. Et on a aussi en miroir, en écho, en enchevêtrement, l'écriture française.
C'est ça. Parce que c'est un recueil qui s'écrit dans les deux langues. Mmh. En dehors du premier poème qui est écrit en français, puisque ouais. C'est un cadeau à offrir, et qui est donc, trouve sa traduction en grec, les deux autres poèmes se composent au fur et à mesure en passant d'une langue à l'autre. Donc là, la passerelle de Muriel Zach oui. fonctionne à merveille. Et il n'y aurait pas, il n'y aurait ni le texte français ni le texte grec si cet écho ne pouvait pas se
oui,
faire.
Oui, tout à fait.
Ils
tout
avaient fait. Besoin l'un de l'autre parce que l'autre était trop près de l'histoire qu'il décrivait et l'autre était trop loin. Donc il fallait à chaque fois qu'ils soient solidaires, qu'ils s'entretiennent pour me donner vraiment à chaque fois la note juste, le mot juste. Et que l'histoire puisse avancer.
Il y a un clin d'œil aussi, ce livre. Il y a un autre écrivain qui vous est cher aussi, Albert Camus.
Tout à fait.
Et pour vous aussi, finalement, puisque Sisyphe, lui, il en parlait aussi. Il dit, il faut imaginer Sisyphe heureux. Mm. Et vous, j'ai vu Sisyphe heureux. Il y a ce contrepoint.
Je lui confirme, je le rassure. Je
vous le rassurez quelque ouais. part. Hein.
Je lui dis que je reste sa fille.
Voilà.
Là, oui,
c'est beau aussi ce lien aussi effectivement avec en tout cas cet écho, c'est ce lien avec Albert Camus et ce qu'il a dit. Donc ce livre est aussi porteur de ça aussi également. Il vous a aidé aussi dans cette correspondance.
Bah, comme on disait tout à l'heure que toute écriture est communication. Pour oui. moi, ce livre était une tentative de dialogue avec Bruno Doucet et Muriel Zach et Albert Camus
de l'autre côté,
avec qui j'ai grandi, qui m'a formé, transformé, déformé, qui a tout fait sur mon esprit. Donc, il fait partie de mes guides à travers ses textes, à travers sa pensée. Et donc, quand j'arrive à cette chute de poème, où le poème conclut par cette phrase-là, moi, j'ai vu Sisyphe heureux, c'est une réponse vraiment
c'est
à Albert
vraiment
Camus.
C'est vraiment la réponse à Albert Camus.
À cet espoir qu'il met dans sa phrase, il faut quand même imaginer Sisyphe heureux, malgré l'absurdité de la vie,
c'est ça.
Malgré la vanité de l'effort, il faut quand même se dire que le bonheur peut être inclus dans cette vie-là. Et pour moi, on disait tout à l'heure, ce sentiment d'être étranger dans le monde où on habite, là où on arrive, cette absurdité de la vie trouver sa réponse dans les vies simples de ces gens-là. Ces trois histoires de ce recueil sont des petites épopées du quotidien.
C'est ça.
Comme Homère racontait la guerre de Troie et les voyages d'Ulysse, moi je me penche sur les quotidiens de petits personnages.
C'est ça. Simples, pauvres, avec leur profonde entité.
Oui. Avec leurs valeurs, leur façon de traverser le temps, de traverser la vie, et je m'inspire d'eux. Et c'était mes talismans, en fait. Ce que je dois à Bruno Doucet, c'est que j'avais oublié tout ça, et c'est lui qui me dit
il faut que tu te raccroches, reviens à la source.
Reviens à la source. C'est lui qui me permet d'y retourner, parce que moi, je pense, dans un effort encore de m'adapter à la réalité française, je reste ici. Je ne regarde que ce qui se passe ici.
C'est ça.
Et lui, c'est comme s'il me disait, on est ta famille d'accueil, tu peux nous présenter les tiens, c'est le moment, on peut
Alors,
les accepter.
Justement, Katerina Apostolopoulou, est-ce qu'on ne pourrait pas écouter, justement,
un petit
le extrait. Retour aux sources, et justement avec un petit extrait, je vous laisse peut-être le présenter, ce petit extrait que vous voulez prendre du texte. Alors on va le faire en deux temps, ce retour aux sources, un petit extrait du livre, et puis on écoutera aussi... Vous avez tenu, vous l'avez choisi, un extrait musical qui lui aussi fait référence aux ressources grecques. Mais d'abord, écoutons un des passages, justement, j'ai vu Sisyphe heureux.
Donc ce qui est compliqué avec ce recueil, c'est que comme il s'agit de la poésie narrative, donc c'est comme des petites nouvelles en
c'est
forme
ça.
Des poèmes, c'est difficile de
oui.
choisir un extrait
Très.
Parce qu'on est quand même dans une histoire.
Tout à fait.
Donc, je vais quand même faire un effort. Du coup, je suis obligée de choisir peut-être
Bien sûr,
le premier
et je vous en
passage
remercie.
De chaque histoire. Et je choisis les débuts de la troisième histoire qui s'appelle « Le centaure de notre enfance » et qui parle d'un mendiant céleste, d'un personnage vrai d'ailleurs, qui a habité notre enfance. τον έλεγαν Φώτη. Ήταν ο θρύλος των παιδικών μας χρόνων. Ο άνθρωπος που αφουγκραζόταν την ψυχή της πόλης. Ένας μυθικός πλάνητας που κυκλοφορούσε ανάμεσά μας. Κανείς δεν θυμότανε να πει πότε ακριβώς ο Φώτης εγκατέλειψε τα πάντα για να γίνει ο ερημητής του λόφου. Στα νιάτα του ήταν τσαγκάρης. Ήταν στα αλήθεια δυνατόν να ήταν ο Φώτης νέος κάποτε, παιδί, όπως εμείς. Il s'appelait Fotis, une légende de notre enfance. L'homme qui écoutait l'âme de la ville. Nous avons grandi avec cet être étrange qui errait parmi nous. Personne ne se souvenait du jour où Fotis avait tout laissé derrière lui pour devenir l'ermite de la colline. Lorsqu'il était jeune, il était cordonnier. Était-il possible que Fotis ait été jeune un jour, enfant, comme nous? Il faisait du bon travail et son affaire marchait bien, mais il donnait tout ce qu'il gagnait à qui avait plus besoin que lui. Il a dû fermer la boutique, l'année juste avant les grands tremblements des terres. Nous n'étions pas encore nés. Il s'était marié avec une femme belle et douce. Il s'aimait comme des fous. Elle était morte subitement. Fotis a abandonné sa maison, ses papiers, sa carte d'identité, le peu des biens qu'il possédait, et il a quitté la ville, a disparu. Plusieurs mois plus tard, des pêcheurs racontaient l'avoir croisé en banlieue, près de la mer, sortant d'une grotte taillée dans la colline. Petit à petit, il s'est transformé en vague, qui traversait la ville le jour, mouillait tous les quartiers de ses bons jours et de son regard frais, et puis le soir, se retirait.
Magnifique. Merci beaucoup, Katerina Apostolopoulou, voilà, de nous avoir emmené justement à la fois aux sources et aussi dans, on parlait de passerelle aussi, c'est-à-dire ce voyage entre les deux, et on replonge totalement dans, on imagine, on les voit, ces personnages et ce qu'ils sont en train de vivre. Et peut-être on peut continuer le pont, restons dans cette suspension que vous venez de nous livrer, et poursuivons-la avec un extrait musical auquel vous teniez, et peut-être juste en quelques mots, et on plonge tout de suite dans la musique avec nos auditeurs.
C'est la musique tirée du film America, America, d'Elias Kazan.
Que si comme un
Résonance sur Radio B. La poésie, c'est la façon la plus directe de faire se rencontrer deux âmes qui ne se connaissaient pas. Alors nous arrivons, Katerina Apostolopoulou, à la fin de notre entretien, de ce moment d'échange. Je voulais rappeler quand même que votre livre, et vous avez été lauréate donc du prix Pépite Fiction Ado au Salon du Livre de Montreuil et de la Presse Jeunesse en 2020, mais aussi que celui-ci a reçu en 2021 le prix René Lainaud, qui lui récompense aussi la création poétique francophone. Je voulais aussi saluer encore, et vous en avez parlé admirablement justement, de ces relations qui vous lié à vos éditeurs, et bien sûr on peut saluer encore une fois cet éditeur Bruno Doucet, aussi de cet engagement auprès de vous mais auprès d'autres écrivains. Il y a une démarche d'éditeur importante et je trouve qu'elle est importante à saluer ici parce que c'est ce qui lui permet de donner tous les échos et la force aussi.
C'est une maison d'édition qui publie que de la poésie.
C'est ça.
Et très peu des romans qui encore racontent des vies des poètes. Donc on parle, c'est une prise de risque inouïe, on entend bien, et qui défend beaucoup les voix venues d'ailleurs et les jeunes poètes aussi, les jeunes voix.
En tout cas, Efraristos. Katerina Apostolopoulou, j'espère, chers auditeurs et auditrices, que vous avez apprécié de voyager avec nous dans cette conversation très libre et très riche grâce à vos propos, où la poésie a été aussi une forme de passerelle, là aussi, entre deux cultures, des ponts qui unissent aussi depuis si longtemps ces deux cultures, que sont nos deux pays, la Grèce et la France, vers moi-même une même entité, on dirait, à la suite de cet entretien. En tout cas, que là, il y a pas de frontière, au contraire. Donc, grand merci encore à vous. Cette émission de Résonance sera donc diffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Vous pouvez bien sûr écouter, comme d'habitude, quand vous le voulez, où vous le souhaitez, aussi longtemps que vous le souhaitez, la présente émission, mais bien sûr, les émissions précédentes, en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radiob-fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous. À très vite sur Radio B.